Histoire de Gil Blas de Santillane, livre 3, chapitre 10, qui n'est pas plus long que le précédent. Il était à peu près l'heure de la comédie. Ma maîtresse me dit de la suivre avec Laure au théâtre. Nous entrâmes dans sa loge, où elle ôta son habit de ville et en prit un autre plus magnifique pour paraître sur la scène. Quand le spectacle commença, Laure me conduisit et se plaça près de moi dans un endroit d'où je pouvais voir et entendre parfaitement bien les acteurs. Ils me déplurent pour la plupart, à cause sans doute que Don Pompeo m'avait prévenu contre eux. On ne laissait pas d'en applaudir plusieurs, et quelques-uns de ceux-là me firent souvenir de la fable du cochon. Laure m'apprenait le nom des comédiens et des comédiennes à mesure qu'ils s'offraient à nos yeux. Elle ne se contentait pas de les nommer. La médisante en faisait de jolis portraits. « Celui-ci, disait-elle, a le cerveau creux. Celui-là est insolent. Cette mignonne que vous voyez et qui a l'air plus libre que gracieux s'appelle Rosarda. Mauvaise acquisition pour la compagnie. On devrait mettre cela dans la troupe qu'on lève par ordre du vice-roi de la Nouvelle-Espagne et qu'on va faire incessamment partir pour l'Amérique. » Regardez bien cet astre lumineux qui s'avance, ce beau soleil couchant, c'est Casilda. Si, depuis qu'elle a des amants, elle avait exigé de chacun d'eux une pierre de taille pour en bâtir une pyramide, comme fit autrefois une princesse d'Égypte, elle en pourrait faire élever une qui irait jusqu'au troisième ciel. Enfin, Laure déchira tout le monde par des médisances. Ah, la méchante langue, elle n'épargna pas même sa maîtresse. Cependant, j'avouerai mon faible. J'étais charmée de ma soubrette, quoique son caractère ne fût pas moralement bon. Elle médisait avec un agrément qui me faisait aimer jusqu'à sa malignité. Elle se levait dans les entr'actes pour aller voir si Arsénie n'avait pas besoin de ses services. Mais au lieu de venir promptement reprendre sa place, elle s'amusait derrière le théâtre à recueillir les fleurettes des hommes qui la cajolaient. Je la suivis une fois pour l'observer, et je remarquai qu'elle avait bien des connaissances. Je comptai jusqu'à 3 comédiens qui l'arrêtèrent l'un après l'autre pour lui parler, et ils me parurent s'entretenir avec elle très familièrement. Cela ne me plut point, et pour la première fois de ma vie, je sentis ce que c'est que d'être jaloux. Je retournai à ma place, si rêveur et si triste, que Laure s'en aperçut aussitôt qu'elle m'eut rejoint. « Qu'as-tu, Gil Blas ?» me dit-elle avec étonnement. « Quelle humeur noire s'est emparée de toi depuis que je t'ai quittée. Tu as l'air sombre et chagrin. »« Ma princesse, lui répondis-je, ce n'est pas sans raison. Vos allures sont un peu vives. Je viens de vous voir avec des comédiens. »« Ah, le plaisant sujet de tristesse !» interrompit-elle en riant. « Quoi, cela te fait de la peine ? Oh, vraiment, tu n'es pas au bout. Tu verras bien d'autres choses parmi nous. » Il faut que tu t'accoutumes à nos manières aisées. Point de jalousie, mon enfant. Les jaloux, chez le peuple comique, passent pour des ridicules. Aussi n'y en a-t-il presque point. Les pères, les maris, les frères, les oncles et les cousins sont les gens du monde les plus commodes, et souvent même ce sont eux qui établissent leur famille. Après m'avoir exhorté à ne prendre ombrage de personne et à regarder tout tranquillement, elle me déclara que j'étais l'heureux mortel qui avait trouvé le chemin de son cœur. Puis elle m'assura qu'elle m'aimerait toujours uniquement. Sur cette assurance dont je pouvais douter sans passer pour un esprit trop défiant, je lui promis de ne plus m'alarmer et je lui tins parole. Je la vis, dès le soir même, s'entretenir en particulier et rire avec des hommes. À l'issue de la comédie, nous nous en retournâmes avec notre maîtresse au logis, où Florimonde arriva bientôt avec 3 vieux seigneurs et un comédien qui y venait souper. Outre Laure et moi, il y avait pour domestiques dans cette maison une cuisinière, un cocher et un petit laquais. Nous nous joignîmes tous 5 pour préparer le repas. La cuisinière, qui n'était pas moins habile que la dame Jacinthe, apprêta les viandes avec le cocher. La femme de chambre et le petit laquais mirent le couvert et je dressai le buffet, composé de la plus belle vaisselle d'argent et de plusieurs vases d'or, autres offrandes que la déesse du temple avait reçues. Je le parais de bouteilles de différents vins et je servis des chansons pour montrer à ma maîtresse que j'étais un homme à tout. J'admirais la contenance des comédiennes pendant le repas. Elles faisaient les dames d'importance. Elles s'imaginaient être des femmes du premier rang. Bien loin de traiter d'excellence les seigneurs, elles ne leur donnaient pas même de la seigneurie. Elles les appelaient simplement par leur nom. Il est vrai que c'était eux qui les gâtaient et qui les rendaient si vaines en se familiarisant un peu trop avec elles. Le comédien, de son côté, comme un acteur accoutumé à faire le héros, vivait avec eux sans façon. Il buvait à leur santé et tenait, pour ainsi dire, le haut bout. « Parbleu, dis-je en moi-même, quand Laure m'a démontré que le marquis et le comédien sont égaux pendant le jour, elle pouvait ajouter qu'ils le sont encore davantage pendant la nuit, puisqu'ils la passent tout entière à boire ensemble. » Arsénie et Florimonde étaient naturellement enjoués. Il leur échappa mille discours hardis, entremêlés de menus faveurs et de minauderies qui furent bien savourés par ces vieux pêcheurs. Tandis que ma maîtresse en amusait un par un badinage innocent, son ami, qui se trouvait entre les deux autres, ne faisait point avec eux la Suzanne. Dans le temps que je considérais ce tableau, qui n'avait que trop de charme pour un vieil adolescent, on apporta le fruit. Alors je mis sur la table des bouteilles de liqueur et des verres, et je disparus pour aller souper avec Laure qui m'attendait. « Eh bien, Gil Blas, me dit-elle, que penses-tu de ces seigneurs que tu viens de voir ?»«
Ce sont sans doute, lui répondis-je, des adorateurs d'Arsénie et de Florimonde. »
« Non, reprit-elle, ce sont de vieux voluptueux qui vont chez les coquettes sans s'y attacher. Ils n'exigent d'elles qu'un peu de complaisance, et ils y sont assez généreux pour bien payer les petites bagatelles qu'on leur accorde. Grâce au ciel, Florimonde et ma maîtresse sont à présent sans amants. Je veux dire qu'elles n'ont pas de ces amants qui s'érigent en maris et veulent faire tous les plaisirs d'une maison, parce qu'ils en font toute la dépense. Pour moi, j'en suis bien aise, et je soutiens qu'une coquette sensée doit fuir ces sortes d'engagements. Pourquoi se donner un maître? Il vaut mieux gagner sou à sou un équipage que de l'avoir tout d'un coup à ce prix-là. » Lorsque Laure était en train de parler, et elle y était presque toujours, les paroles ne lui coûtaient rien. Quelle volubilité de langue! Elle me conta mille aventures arrivées aux actrices de la troupe du prince, et je conclus de tous ses discours que je ne pouvais être mieux placée pour connaître parfaitement les vices. Malheureusement, j'étais dans un âge où ils ne font guère d'horreur. Et il faut ajouter que la soubrette savait si bien peindre les dérèglements que je n'y envisageais que des délices. Elle n'eut pas le temps de m'apprendre seulement la dixième partie des exploits des comédiennes, car il n'y avait pas plus de 3 heures qu'elle en parlait. Les seigneurs et le comédien se retirèrent avec Florimonde, qu'ils conduisirent chez elle. Après qu'ils furent sortis, ma maîtresse me dit en me mettant de l'argent entre les mains « Tenez, Gil Blas, voilà 10 pistoles pour aller demain matin à la provision. 5 ou 6 de nos messieurs et de nos dames doivent dîner ici. Ayez soin de nous faire faire bonne chère. » « Madame, lui répondis-je, avec cette somme, je promets d'apporter de quoi régaler toute la troupe même. » « Mon ami, reprit Arsénic, corrigez, s'il vous plaît, vos expressions. Sachez qu'il ne faut point dire la troupe, il faut dire la compagnie. On dit bien une troupe de bandits, une troupe de gueux, une troupe d'auteurs, mais apprenez qu'on doit dire une compagnie de comédiens. Les acteurs de Madrid, surtout, méritent bien qu'on appelle leur corps une compagnie. » Je demandai pardon à ma maîtresse de m'être servi d'un terme si peu respectueux. Je la suppliai très humblement d'excuser mon ignorance. Je lui protestai que dans la suite, quand je parlerai de messieurs les comédiens de Madrid d'une manière collective, je dirai toujours la compagnie. Chapitre 11. Comment les comédiens vivaient ensemble et de quelle manière ils traitaient les auteurs. Je me mis donc en campagne le lendemain matin pour commencer l'exercice de mon emploi d'économe. C'était un jour maigre. J'achetai, par ordre de ma maîtresse, de bons poulets gras, des lapins, des perdreaux et d'autres petits pieds. Comme messieurs les comédiens ne sont pas contents des manières de l'Église à leur égard, ils n'en observent pas avec exactitude les commandements.
j'apportai au logis plus de viande qu'il n'en faudrait à 12 honnêtes gens pour bien passer les 3 jours du carnaval. La cuisinière eut de quoi s'occuper toute la matinée. Pendant qu'elle préparait le dîner, Arsénie se leva et demeura jusqu'à midi à sa toilette. Alors les seigneurs Rosimiro et Ricardo, comédiens, arrivèrent. Il survint ensuite 2 comédiennes, Constance et Célinora. Et un moment après parut Florimonde, accompagné d'un homme qui avait tout l'air d'un seigneur cavalero des plus lestes. Il avait les cheveux galamment noués, un chapeau relevé d'un bouquet de plumes de feuilles mortes, un haut de chausses bien étroit, et l'on voyait aux ouvertures de son pourpoint une chemise fine avec une fort belle dentelle. Ses gants et son mouchoir étaient dans la concavité de la garde de son épée, et il portait son manteau avec une grâce toute particulière. Néanmoins, quoiqu'il eût bonne mine et fût très bien fait, je trouvai d'abord en lui quelque chose de singulier. « Il faut, dis-je en moi-même, que ce gentilhomme-là soit un original. » Je ne me trompais point. C'était un caractère marqué. Dès qu'il entra dans l'appartement d'Arsénie, il courut, les bras ouverts, embrasser les actrices et les acteurs l'un après l'autre, avec des démonstrations plus outrées que celles des petits maîtres. Je ne changeai point de sentiment lorsque je l'entendis parler. Il appuyait sur toutes les syllabes et prononçait ses paroles d'un ton emphatique, avec des gestes et des yeux accommodés au sujet. J'eus la curiosité de demander alors ce que c'était que ce cavalier. « Je te pardonne, me dit-elle, ce mouvement curieux. Il est impossible de voir et d'entendre pour la première fois le seigneur Carlos Alonso de la Ventoleria sans avoir l'envie qui te presse. Je vais te le peindre au naturel. Premièrement, c'est un homme qui a été comédien. Il a quitté le théâtre par fantaisie et s'en est depuis repenti par raison. As-tu remarqué ses cheveux noirs? Ils sont teints, aussi bien que ses sourcils et sa moustache. Il est plus vieux que Saturne. Cependant, comme au temps de sa naissance, ses parents ont négligé de faire écrire son nom sur les registres de sa paroisse. Il profite de leur négligence et se dit plus jeune qu'il n'est de 20 bonnes années, pour le moins. D'ailleurs, c'est le personnage d'Espagne le plus rempli de lui-même. Il a passé les 12 premiers lustres de sa vie dans une ignorance crasse. Mais pour devenir savant, il a pris un précepteur qui lui a appris à épeler en grec et en latin. De plus, il sait par cœur une infinité de bons contes qu'il a récités tant de fois, comme de son cru, qu'il est parvenu à se figurer qu'ils en sont effectivement. Il les fait venir dans la conversation, et on peut dire que son esprit brille aux dépens de sa mémoire. Au reste, on dit que c'est un grand acteur. Je veux le croire pieusement. Je t'avouerai toutefois qu'il ne me plaît point. Je l'entends quelquefois déclamer ici, et je lui trouve, entre autres défauts, une prononciation trop affectée, avec une voix tremblante, qui donne un air antique et ridicule à sa déclamation. Tel fut le portrait que ma soubrette me fit de cet histrion honoraire. Et véritablement, je n'ai jamais vu de mortel d'un maintien plus orgueilleux. Il faisait aussi le beau parleur. Il ne manqua pas de tirer de son sac 2 ou 3 contes qu'il débita d'un air imposant et bien étudié. D'une autre part, les comédiennes et les comédiens, qui n'étaient point venus là pour se taire, ne furent pas muets. Ils commencèrent à s'entretenir de leurs camarades absents d'une manière peu charitable à la vérité. Mais c'est une chose qu'il faut pardonner aux comédiens comme aux auteurs. La conversation s'échauffa donc contre le prochain. « Vous ne savez pas, mesdames, » dit Rosimiro, « un nouveau trait de Césarino, notre cher confrère. Il a ce matin acheté des bas de soie, des rubans et des dentelles, qu'il s'est fait apporter à l'assemblée par un petit sage, comme de la part d'une comtesse. Quelle friponnerie !» dit le seigneur de la Ventoleria en souriant d'un air fat et vain. « De mon temps, on était de meilleure foi. Nous ne songions point à composer de pareilles fables. Il est vrai que les femmes de qualité nous en épargnaient l'invention. Elles faisaient elles-mêmes les emplettes. Elles avaient cette fantaisie-là. « Parbleu !» dit Ricardo du même ton. « Cette fantaisie les tient bien encore. Et s'il était permis de s'expliquer là-dessus... Mais il faut taire ces sortes d'aventures, surtout quand des personnes d'un certain rang y sont intéressées.
Messieurs, interrompit Florimonde, laissez là de grâce vos bonnes fortunes, elles sont connues de toute la terre.
Parlons d'Isménie. On dit que ce seigneur qui a fait tant de dépenses pour elle vient de lui échapper.
Oui, vraiment, s'écria Constance, et je vous dirai de plus qu'elle perd un petit homme d'affaires qu'elle aurait indubitablement ruiné. Je sais la chose d'originale. Son mercure a fait un quiproquo. Il a porté au seigneur un billet qu'elle écrivait à l'homme d'affaires, et a remis à l'homme d'affaires une lettre qui s'adressait au seigneur.
Voilà de grandes pertes, ma mignonne, reprit Florimonde.
Oh, pour celle du seigneur, repartit Constance, elle est peu considérable. Le cavalier a mangé presque tout son bien. Mais le petit homme d'affaires ne faisait que d'entrer sur les rangs. Il n'a point encore passé par les mains des coquettes. C'est un sujet à regretter.
Ils s'entretinrent à peu près de cette sorte avant le dîner, et leur entretien roula sur la même matière lorsqu'ils furent à table.
Comme je ne finirais point si j'entreprenais de rapporter tous les autres discours pleins de médisances ou de fatuités que j'entendis, le lecteur trouvera bon que je les supprime, pour lui conter de quelle façon fut reçu un pauvre diable d'auteur qui arriva chez Arsénie sur la fin du repas. Notre petit laquais vint dire tout haut à ma maîtresse « Madame, un homme en linge sale, crotté jusqu'à l'échine, et qui, sauf votre respect, a tout l'air d'un poète, demande à vous parler. »
Qu'on le fasse monter, répondit Arsénie.
Ne bougeons, messieurs, c'est un auteur.
Effectivement, c'en était un dont on avait accepté une tragédie et qui apportait un rôle à ma maîtresse. Il s'appelait Pedro de Moya. Il fit en entrant 5 ou 6 profondes révérences à la compagnie qu'il ne se leva, ni même ne le salua point. Arsénie répondit seulement par une simple inclination de tête aux civilités dont il l'accablait. Il s'avança dans la chambre d'un air tremblant et embarrassé. Il laissa tomber ses gants et son chapeau, il les ramassa, s'approcha de ma maîtresse et lui présenta un papier plus respectueusement qu'un plaideur ne présente un placé à son juge.
« Madame, lui dit-il, agréez de grâce le rôle que je prends la liberté de vous offrir. » Elle le reçut d'une manière froide et méprisante et ne daigna pas même répondre au compliment. Cela ne rebuta point notre auteur, qui, se servant de l'occasion pour distribuer d'autres personnages, en donna un à Rosimiro et un autre à Florimonde, qui n'en usèrent pas plus honnêtement avec lui qu'Arsénie. Au contraire, le comédien, fort obligeant de son naturel, comme ces messieurs le sont pour la plupart, l'insulta par de piquantes railleries. Pedro de Moya les sentit. Il n'osa toutefois les relever, de peur que sa pièce n'en pâtît. Il se retira sans rien dire, mais vivement touché à ce qu'il me parut de la réception que l'on venait de lui faire. Je crois que dans son dépit, il ne manqua pas d'apostropher en lui-même les comédiens comme il le méritait. Et les comédiens, de leur côté, quand il fut sorti, commencèrent à parler des auteurs avec beaucoup de respect.
« Il me semble, dit Florimonde, que le seigneur Pedro de Moya ne s'en va pas fort satisfait. »
« Eh, madame, s'écria Rosimirio, de quoi vous inquiétez-vous? Les auteurs sont-ils dignes de notre attention? Si nous allions de pair avec eux, ce serait le moyen de les gâter. Je connais ces petits messieurs, je les connais, ils s'oublieraient bientôt. Traitons-les toujours en esclaves, et ne craignons point de lasser leur patience. Si leur chagrin les éloigne de nous quelquefois, la fureur d'écrire nous les ramène. » Et ils sont encore trop heureux que nous voulions bien jouer leurs pièces.
Vous avez raison, dit Arsénie. Nous ne perdons que les auteurs dont nous faisons la fortune. Pour cela, sitôt que nous les avons bien placés, l'aise les gagne et ils ne travaillent plus. Heureusement, la compagnie s'en console et le public n'en souffre point.
On applaudit à ces beaux discours et il se trouva que les auteurs, malgré les mauvais traitements qu'ils recevaient des comédiens, leur en devaient encore de reste. Ces histrions les mettaient au-dessous d'eux, et certes,
il ne pouvait les mépriser davantage. Chapitre 12. Gil Blas se met dans le goût du théâtre, il s'abandonne aux délices de la vie comique et s'en dégoûte peu de temps après. Les conviés demeurèrent à table jusqu'à ce qu'il fallût aller au théâtre. Alors ils s'y rendirent tous. Je les suivis et je vis encore la comédie ce jour-là. J'y pris tant de plaisir que je résolus de la voir tous les jours. Je n'y manquais pas et insensiblement je m'accoutumais aux acteurs. Admirez la force de l'habitude. J'étais particulièrement charmé de ceux qui braillaient et gesticulaient le plus sur la scène, et je n'étais pas seul dans ce goût-là. La beauté des pièces ne me touchait pas moins que la manière dont on les représentait. Il y en avait quelques-unes qui m'enlevaient, et j'aimais, entre autres, celle où l'on faisait paraître tous les cardinaux ou les 12 pairs de France. Je retenais des morceaux de ces poèmes incomparables. Je me souviens que j'appris par cœur en 2 jours une comédie entière qui avait pour titre « La reine des fleurs ». La rose, qui était la reine, avait pour confidente la violette et pour écuyer le jasmin. Je ne trouvais rien de plus ingénieux que ces ouvrages, qui me semblaient faire beaucoup d'honneur à l'esprit de notre nation. Je ne me contentais pas d'orner ma mémoire des plus beaux traits de ces chefs-d'œuvre dramatiques. Je m'attachais à me perfectionner le goût, et pour y parvenir sûrement, j'écoutais avec une avide attention tout ce que disaient les comédiens. S'ils louaient une pièce, je l'estimais. Leur paraissait-elle mauvaise, je la méprisais. Je m'imaginais qu'ils se connaissaient en pièces de théâtre, comme les joailliers en diamants. Néanmoins, la tragédie de Pedro de Moya eut un très grand succès, quoiqu'ils eussent jugé qu'elle ne réussirait point. Cela ne fut pas capable de me rendre leur jugement suspect, et j'aimais mieux penser que le public n'avait pas le sens commun que de douter de l'infaillibilité de la compagnie. Mais on m'assura de toutes parts qu'on applaudissait ordinairement les pièces nouvelles dont les comédiens n'avaient pas bonne opinion, et qu'au contraire, celles qu'ils recevaient avec applaudissement étaient presque toujours sifflées. On me dit que c'était une de leurs règles de juger si mal des ouvrages. Et là-dessus, on me cita 1000 succès de pièces qui avaient démenti leur décision. J'eus besoin de toutes ces preuves pour me désabuser. Je n'oublierai jamais ce qui arriva un jour qu'on représentait pour la première fois une comédie nouvelle. Les comédiens l'avaient trouvée froide et ennuyeuse. Ils avaient même jugé qu'on ne l'achèverait pas. Dans cette pensée, ils en jouèrent le premier acte, qui fut fort applaudi. Cela les étonna, ils jouent le second acte. Le public le reçoit encore mieux que le premier. Voilà mes acteurs déconcertés. « Comment, diable ? » dit Rosimiro, « cette comédie prend ?» Enfin, ils jouent le troisième acte, qui plut encore davantage. « Je n'y comprends rien, » dit Ricardo. « Nous avons cru que cette pièce ne serait pas goûtée. Voyez le plaisir qu'elle fait à tout le monde. » « Messieurs, » dit alors un comédien fort naïvement, « c'est qu'il y a dedans 1000 traits d'esprit que nous n'avons pas remarqués. » Je cessai donc de regarder les comédiens comme d'excellents juges, et je devins un juste appréciateur de leur mérite. Ils justifiaient parfaitement tous les ridicules qu'on leur donnait dans le monde. Je voyais des actrices et des acteurs que les applaudissements avaient gâtés, et qui, se considérant comme des objets d'admiration, s'imaginaient faire grâce au public lorsqu'ils jouaient. J'étais choquée de leurs défauts, mais par malheur je trouvais un peu trop à mon gré leur façon de vivre, et je me plongeais dans la débauche. Comment aurais-je pu m'en défendre? Tous les discours que j'entendais parmi eux étaient pernicieux pour la jeunesse, et je ne voyais rien qui ne contribuât à me corrompre. Quand je n'aurais pas su ce qui se passait chez Cassilda, chez Constance et chez les autres comédiennes, la maison d'Arsénie toute seule n'était que trop capable de me perdre. Outre les vieux seigneurs dont j'ai parlé, il y venait des petits maîtres, des enfants de famille que les usuriers mettaient en état de faire de la dépense. Et quelquefois on y recevait aussi des traitants, qui, bien loin d'être payés comme dans leurs assemblées, pour leur droit de présence, payez-la pour avoir droit d'être présent. Florimonde, qui demeurait dans une maison voisine, dînaient et soupaient tous les jours avec Arsénie. Elles paraissaient toutes deux dans une union qui surprenait bien des gens. On était étonné que des coquettes fussent en si bonne intelligence, et l'on s'imaginait qu'elles se brouilleraient tôt ou tard pour quelques cavaliers. Mais on connaissait mal ces amies parfaites. Une solide amitié les unissait. Au lieu d'être jalouses comme les autres femmes, elles vivaient en commun. Elles aimaient mieux partager les dépouilles des hommes que de s'en disputer sottement les soupirs. Laure, à l'exemple de ses deux illustres associées, profitait aussi de ses beaux jours. Elle m'avait bien dit que je verrais de belles choses. Cependant, je ne fis point le jaloux. J'avais promis de prendre là-dessus l'esprit de la compagnie. Je dissimulais pendant quelques jours. Je me contentais de lui demander le nom des hommes avec qui je la voyais en conversation particulière. Elle me répondit toujours que c'était un oncle ou un cousin. Qu'elle avait de parents! Il fallait que sa famille fût plus nombreuse que celle du roi Priam. La soubrette ne s'en tenait pas même à ses oncles et à ses cousins. Elle allait encore quelquefois amorcer des étrangers et faire la veuve de qualité chez la bonne vieille dont j'ai parlé. Enfin, Laure, pour en donner au lecteur une idée juste et précise, était aussi jeune, aussi jolie et aussi coquette que sa maîtresse, qui n'avait point d'autre avantage sur elle que celui de divertir publiquement le public. Je cédai au torrent pendant 3 semaines. Je me livrai à toutes sortes de voluptés. Mais je dirai en même temps qu'au milieu des plaisirs, je sentais souvent naître en moi des remords qui venaient de mon éducation et qui mêlaient une amertume à mes délices. La débauche ne triompha point de ces remords. Au contraire, ils augmentèrent à mesure que je devenais plus débauchée. Et par un effet de mon heureux naturel, les désordres de la vie comique commencèrent à me faire horreur. « Ah, misérable !» me dis-je à moi-même. « Est-ce ainsi que tu remplis l'attente de ta famille ? N'est-ce pas assez de l'avoir trompée en prenant un autre parti que celui de précepteur ? Ta condition servile te doit-elle empêcher de vivre en honnête homme ? Te convient-il d'être avec des gens si vicieux ? » L'envie, la colère et l'avarice règnent chez les uns. La pudeur est bannie chez les autres. Ceux-ci s'abandonnent à l'intempérance et à la paresse, et l'orgueil de cela va jusqu'à l'insolence. C'en est fait. Je ne veux pas demeurer plus longtemps avec les 7 péchés mortels.